Jean Pagnac, Assassinat commis par méprise. Dominique Etchegoya de Marcus revenait de la foire d'Oloron le 1er mai 1827 dans la soirée, lorsqu'arrivé vers 10 heures à un petit pont peu éloigné de sa maison d'habitation, il aperçut une lueur rapide semblable à celle que produit la mort d'une arme à feu et se sentit presque aussitôt frappé. Il fit encore quelques pas et distingua un homme qui prenait la fuite. Mais bientôt, ses forces l'abandonnant, il tomba baigné dans son sang. Ses cris plaintifs ayant été entendus dans le voisinage, plusieurs personnes accoururent, et après avoir prodigué aux blessés les plus prompts secours, lui demandèrent quel était son assassin. Etchegoya répondit que l'obscurité ne lui avait pas permis de le reconnaître. Il fit la même réponse devant le maire de sa commune et devant le juge de paix. La justice ne savait sur qui arrêter ses soupçons. Etchegoya, demeure douce et paisible, passait pour n'avoir pas d'ennemis. Un voisin, un ami intime d'Etchegoya, ne se présenta pas chez lui pour le visiter à l'occasion de cet événement. On connaissait son caractère violent et emporté, et dès que l'on eut fait cette remarque, des conjectures ne tardèrent pas à se former. Ce voisin se nommait Etchéon. Doué d'une âme ardente et d'une susceptibilité excessive, sa jeunesse avait été orageuse, et l'âge même semblait avoir pu amortir ses fougueuses ardeurs. Déjà, il avait été condamné correctionnellement à 2 années de prison pour avoir asséné un coup de hache sur un homme qui se disputait avec lui. De plus, il avait été en butte à une accusation d'émission de fausse monnaie. Sa violence rendait formidable à tous ses voisins. Et par suite de son caractère, il était brouillé avec tous ses parents. Marié à une femme qu'il avait longtemps aimée, le sentiment de la jalousie s'était emparé de son cœur et l'agitait par moments d'une sorte de frénésie. Cet homme s'était imaginé que sa femme était infidèle et qu'un de ses enfants avait été le fruit de cette infidélité. Un homme nommé Aiguillapal était celui qu'il regardait comme son rival. Il lui avait voué une haine invétérée et depuis longtemps la vengeance couvait dans son sein. Un de ses métayers, interrogé par la justice, déclara que Cheon lui avait proposé à plusieurs reprises non seulement de se défaire d'Aiguillapal, mais encore de 9 autres personnes dont il croyait avoir à se plaindre. Enfin, le jour où Etchegoyen avait été frappé, on se rappelle qu'Elchéon s'était informé si Aiguillapal ne devait pas aller à la foire d'Oloron. De plus, on l'avait vu se diriger du côté où le crime avait été commis. Une autre circonstance plus grave, c'est que le même jour, on l'avait vu fondre de petits carrelets d'étain, et une certaine quantité de semblables carrelets avait été extraits des blessures d'Etchegoya. L'habitation d'Aiguillapal était située à peu de distance du pont où Etchegoya avait été atteint. Aussi, tout le monde à Marcus fut-il convaincu que le coup dont Etchegoya avait failli être victime était destiné à Aiguillapal. La disparition d'Etchéon vint accréditer et corroborer ses graves soupçons. Il erra pendant quelques jours dans la campagne et alla sans suite chercher un refuge dans les montagnes de l'Arro où un vieux berger lui donna l'hospitalité. Dans cette solitude, les idées qu'il avait conduites à commettre un crime fermentent dans sa tête avec encore plus de violence. Il songe en frémissant à l'ami qui l'a frappé et à la tranquillité triomphante de son odieux rival. Les peines qu'il abreuve débordent son cœur. Il a besoin de les épancher, et il fait à ses hôtes le récit de ses malheurs. Bien plus, pour soulager son âme brûlante des tortures qu'elle éprouve, il compose dans son idiome basque un chant lugubre sur les malheureux événements qui ont causé sa fuite. Voici la traduction littérale de cette élégie d'un nouveau genre remarquable par une peinture où l'énergie le dispute à la naïveté. Les animaux des déserts se dérobent dans leur course vagabonde au regard de l'homme par la crainte qu'il leur inspire. Et moi, malheureux et pleurant, je les imite pour conserver ma triste existence. J'ai passé 10 ans dans l'esclavage, la moitié dans les prisons, et l'autre moitié dans un état plus déplorable. C'est la jalousie qui a laissé lasser ma patience et qui en a été la cause. Le jour qui compléta mes 22 ans, je pris femme pour mon tourment. Je puis dire qu'elle me porta sous sa cotte la corde pour me pendre. Mon ennemi, tu avais une femme, et tu n'avais pas besoin d'abuser de la mienne. Un autre a reçu le coup qui t'était destiné, mais tu pourras recouvrer ce qui t'est dû. Tu peux te vanter que ta vie scandaleuse a perdu 2 galants hommes, et qu'elle a entaché 3 honnêtes lignées. Épouse faible et chère, séduite par un libertin, vous m'avez ruiné et perdu, et vous avez plongé la famille entière dans le malheur. Cher époux, oui, j'ai failli. Vous m'avez donné des peines et des soucis pendant 10 ans, et fait retenir 5 ans dans les cachots, privé par vous de tout secours. Vous vouliez me faire périr de misère. Mais qui pourrait souffrir une telle compagne? Vous avez, dites-vous, souffert pendant des années, mais mon oncle en fut la cause. Et si ma faute s'était manifestée, vous auriez passé vos jours en prison. Jeunes gens, fixez vos regards sur ma triste destinée. Si Nîmes a pour vous des charmes, essayez du moins d'éviter les amertumes de cet esclavage. Mieux vaut être prêtre ou soldat que d'avoir une compagne semblable à la mienne. J'ai beaucoup parlé contre mes ennemis. Cependant, je n'ai rien déguisé. De mon côté, je ne suis pas exempt de reproche. Que Dieu veuille nous pardonner. Les malheureux sont nombreux dans ce monde. Nul ne l'est pourtant autant que moi. J'ai été banni de mes foyers pour avoir voulu être maître dans ma maison. Vous qui poursuivez Echelon, ne le cherchez pas à Marcus. Il compose des chansons à Aiguiton, le meilleur des pâturages des Pyrénées, fréquenté par les bergers de la Soule. Cependant, le bouillant et vindicatif Echelon ne put s'accommoder longtemps de cette vie pastorale et contemplative. Le souvenir de sa femme, celui des Guyapales, le poursuivait sans cesse. Alors, bravant tous les dangers qu'il menaçait, il revient à Marcus. Son retour est signalé par l'incendie d'une maison appartenant à Guyapales. Aucune circonstance ne pouvait faire accuser Echelon de ce nouveau crime, mais la prévention, si prompte à juger, le lui attribua. Enfin, Echelon fut arrêté. Par un hasard singulier, comme on le conduisait en prison, Echegoyen se rencontra sur son passage. « Ah, Echelon !» s'écria ce dernier. « Tu portes pas aujourd'hui les vêtements que t'avais lorsque tu m'as si fort maltraité ?» Echelon s'attendrit et répondit. « Tu sais bien que c'était pas à toi que j'en voulais. » Et après avoir accepté un verre de vin qui lui était offert par son ancien ami, il continua sa route avec les gendarmes. Echegoyen avait en effet prétendu à son 4e interrogatoire qu'il avait reconnu son meurtrier et que c'était Echelon. Quand il lui demanda pourquoi il n'avait pas fait cette déclaration dans les premiers moments, il avait répondu que c'était parce que, se croyant dans un état désespéré, il avait voulu se faire un mérite du pardon et d'un malheur de ne pas en faire deux. Echelon, devant la cour d'assises des Basses-Pyrénées, répondit avec précision à toutes les questions qui lui furent adressées. Peu familiarisé avec la langue française, il fit usage de circonlocutions et d'images hardies empruntées à son idiome naturel, ce qui communiqua plus d'une fois à son langage quelque chose d'original et d'expressif. Il raconta avec simplicité les malheurs de sa vie, la fortune de son père, riche laboureur de la soule, semblait lui assurer un heureux avenir, et son mariage fut le commencement de ses infortunes. Il avait cru trouver en sa femme une compagne qui, s'associant à ses plaisirs comme à ses peines, lui rendrait moins pesant le fardeau de la vie. Il se berçait d'une perfide espérance. Sa femme entretenait des liaisons criminelles avec un débauché, avec Guyabal. Ses conseils furent méprisés. Il était importun. On voulait se défaire de lui. On le calomnia, on le brouilla avec ses parents, avec ses meilleurs amis. Et Choron expliqua, d'une manière qui lui était favorable, le coup de hache qu'il avait fait tenir 2 années en prison et l'émission de fausse monnaie dont il avait été accusé. Et il présenta ces 2 faits comme l'œuvre calomnieuse des personnes intéressées à le perdre. Enfin, passant dans l'accusation pour laquelle il était traduit devant la cour, il adopta un système de défense qui semblait satisfaire à la fois son intérêt personnel et sa soif de vengeance. Il prétendit que, dévoré par la jalousie, bourrelé d'inquiétude, il avait voulu mettre fin, enfin, un terme à ses maux, en faisant prononcer une séparation juridique. Et c'est dans cet objet, disait-il, qu'il s'était caché près du pont voisin de l'habitation des Guyapal, pour être témoin d'un rendez-vous qu'il savait devoir avoir lieu entre ce dernier et sa femme. Il était depuis quelques instants dans cet endroit lorsqu'il aperçut des Guyapal qui se dirigeaient de son côté, armés d'un fusil, et qui ajustaient l'individu qu'il sut depuis être tchégolien. Et Guyapal en voulait-il à sa vie? Et tchégolien fut-il la victime d'une méprise? Il l'ignorait. Mais à cette vue, un trouble subi s'empara de ses sens. Il se hâta de fuir. Quant à la déposition de Tchégoïen, l'accusé demandait quelle confiance pouvait mériter un malheureux qui s'était décidé à l'accuser qu'après 3 auditions successives, et cela par le ressentiment provenant de ce qu'il avait refusé de lui donner sa fille. Tchégoïen repoussa ainsi les charges qui lui étaient opposées et combattit les dépositions des témoins avec une force de logique extrêmement remarquable dans un homme sans culture. Dans cette défense singulière, il se montra tour à tour plein d'une fougueuse véhémence, animé d'une gaieté paisible et presque enfantine. Ainsi, lorsque le nommé Ibar, métayer, qui lui avait été imposé par sa femme et avec qui il avait eu antérieurement de fréquentes disputes, venait déposer avec l'accent de la haine, Ketchor lui avait proposé de tuer 10 personnes pour 30 écus, et qui s'efforçait de les nommer. « Mais vous en oubliez une !» lui dit froidement l'accusé. « Laquelle ?» s'écria le témoin. « Eh mais c'est vous !» répliqua Tchéon en riant aux éclats. Quand Guyapal, appelé comme témoin, parut dans la salle, un tressaillement sembla s'emparer d'Tchéon, et sa figure prit une expression extraordinaire. « Scélérat ! » s'écria-t-il emporté par son indignation. « Tu es la cause de ma perte et de celle de ma famille. Tu as profité de la faiblesse de ma femme. Tu couchais dans mes linceuls. Et moi, j'étais gisant sur la paille des cachots où vous vouliez me faire périr. Tu buvais mon vin et tu mangeais mes jambons, tandis que j'avais que de l'eau et un pain que j'arrosais de mes larmes. Tu n'es pas satisfait cependant encore. « Scélérat, mais tu devrais être à ma place !» En proférant ces mots, la voix de Tchéon était tremblante de colère, ses yeux lançaient des éclairs. Son rival était confondu. Un incident, inouï peut-être dans les annales judiciaires, va donner un grand poids aux allégations par lesquelles Tchéon se plaignait d'être victime d'un complot. Un témoin, après sa déposition, remit au procureur général une pétition dans laquelle plusieurs habitants de Marcus, tout en accusant Echelon du crime le plus affreux, demandaient à la cour s'il ne pouvait prononcer sa condamnation, du moins de ne pas le remettre en liberté. Les débats se prolongèrent pendant 2 jours. Les charges les plus graves de l'accusation s'y trouvèrent singulièrement affaiblies. Et quant au crime d'assassinat, il fut impossible d'établir que l'accusé eût jamais eu un fusil à sa disposition. Echelon, déclaré non coupable par le jury, fut acquitté à la vive satisfaction de la foule nombreuse qui remplissait l'auditoire.